Bonjour Victoria, il est 16h en ce mardi 11 avril. Merci d'être à l'écoute de votre radio communautaire francophone CILS FM 107,9. Mon nom est Alexis Gagnon, je suis avec vous jusqu'à 17h pour cette nouvelle édition du Débrief, votre rendez-vous info quotidien à l'antenne du 107,9. L'émission commence dans quelques instants avec la revue de presse internationale. À tout de suite. Bienvenue dans l'émission Le Débrief, votre rendez-vous info quotidien. Mon nom est Alexis Gagnon. Voici votre revue de presse internationale pour les 11 et 12 avril. On commence avec un article qui paraît dans le fil de l'agence France Presse. La tension monte d'un cran entre Washington et Pyongyang. La tension montait mardi entre Pyongyang et Washington, Donald Trump réaffirmant être disposé à résoudre le problème nord-coréen seul, sans la Chine, tandis que la Corée du Nord se disait prête à la guerre, qualifiant d'insensé l'envoi d'un porte-avions américain près de ses côtes. « La Corée du Nord cherche des ennuis », a écrit Donald Trump sur Twitter, et si la Chine décide d'aider, ça serait formidable. Sinon, nous résoudrons nous-mêmes le problème. À peine quelques jours après un sommet avec son homologue chinois Xi Jinping, Donald Trump a en outre semblé lier les négociations commerciales entre les deux premières puissances économiques mondiales à la question nord-coréenne. J'ai expliqué au président chinois qu'un accord commercial avec les États-Unis serait bien meilleur pour eux s'ils résolvent le problème nord-coréen, a-t-il dit. Donald Trump avait accueilli le numéro un chinois dans sa résidence privée de Floride jeudi et vendredi pour une première rencontre placée sous le signe de la cordialité. Peu après le départ du président chinois, Washington a annoncé samedi que le porte-avions USS Carl Vinson et son escadre faisaient route vers la péninsule coréenne alors qu'ils devaient initialement faire escale en Australie. Le déploiement insensé américain pour envahir la République de Corée du Nord a atteint une phase préoccupante, a réagi la Corée du Nord. La République démocratique populaire de Corée est prête à réagir quel que soit le type de guerre voulue par les États-Unis. Donc, comme l'indique le titre, il y a une escalade actuellement. La tension monte d'un cran entre Washington et Pyongyang. C'est dans le fil de l'agence France Presse. On se déplace dans les colonnes du journal Le Monde à propos de cet attentat terroriste survenu en Scandinavie. Suède, le suspect de l'attentat reconnaît avoir commis un acte terroriste. Le principal suspect de l'attentat au camion Bélier, qui a fait vendredi 7 avril 4 morts à Stockholm, la capitale suédoise, reconnaît avoir commis un acte terroriste, a déclaré son avocat commis d'office mardi lors d'une audience en présence de son client menotté qui ne s'est pas exprimé. Le suspect, Rakhmat Akimov, 39 ans, est originaire d'Ouzbékistan. Il avait demandé l'asile en Suède en 2014, mais avait reçu une réponse négative. Les autorités suédoises lui avaient donné jusqu'au 1er janvier 2017 pour quitter le territoire national. Dans les colonnes du média France Info, un article sur un rapport d'Amnesty International. Peine de mort dans le monde, des chiffres qui sont souvent tronqués. C'est sous la plume du journaliste Jacques Devaux. Le rapport annuel d'Amnesty International sur le nombre de condamnations à la peine capitale vient de paraître. Si le nombre d'exécutions a baissé dans le monde, 1032 contre 1634 en 2015. Les condamnations, toutefois, ont atteint un pic. Au moins 18 848 personnes attendent actuellement dans le couloir de la mort. Et la Chine reste le pays où l'on exécute le plus. Les chiffres de la peine de mort dans le monde sont à prendre avec circonspection, écrit le journaliste. Hormis quelques démocraties qui répondent spontanément aux demandes des ONG, tous les chiffres ou presque sont biaisés. Il y a d'abord le cas de pays comme la Chine ou le Vietnam où la peine de mort est un secret d'État et donc où les informations sont minimales. Aussi, aucune communication n'est faite, par exemple, sur les cas d'étrangers, citoyens étrangers qui sont impliqués dans un trafic de stupéfiants, ni pour les cas de terrorisme. Amnesty International estime que le nombre de condamnations à mort se compte par milliers. La Chine demeure le pays qui exécute le plus de personnes, bien plus que tous les pays du monde réunis. Donc vous trouverez cet article dans le portail France Info. Peine de mort dans le monde, des chiffres souvent tronqués. Dans le journal Le Monde à présent, États-Unis, les passages illégaux en forte baisse à la frontière avec le Mexique. La police des frontières américaines a enregistré en mars le plus faible nombre de tentatives de passage illégaux depuis 17 ans. Le secrétaire à la sécurité intérieure, John Kelly, s'en est félicité le 5 avril lors d'une audition au Congrès, précisant que ce recul est notamment spectaculaire pour les cas de famille et d'enfants. Avec 12 500 personnes arrêtées, selon le secrétaire, la baisse est de 64% par rapport à mars 2016. En février de cette année, déjà, le recul était de 39% par rapport à l'an passé. Ces arrestations sont alimentées ces dernières années par une immigration venant principalement de trois pays instables d'Amérique centrale, le Salvador, le Guatemala et le Honduras, peut-on lire dans cet article du journal Le Monde. Les interpellations avaient augmenté à la frontière avec le Mexique en 2016, alors que le président Trump était en campagne et promettait de faire de cette question un élément essentiel de sa présidence. Le secrétaire John Kelly a estimé lors de sa comparution au Congrès que la baisse constatée en début d'année 2017 ne relevait pas du hasard et qu'elle était finalement la conséquence des politiques radicales sur l'immigration voulues par le président Donald Trump. Dans Ouest France maintenant, pas de rencontre prévue avec le pape. Donald Trump renonce à rencontrer le pape François lors d'un passage en Italie. C'est ce que nous apprend cet article de Ouest France. Contrairement à ses prédécesseurs, le nouveau président américain n'a pas demandé à être reçu par le pape François, une rupture diplomatique, symbole de divergence profonde, notamment sur la question de l'immigration. Le président américain Donald Trump n'a pas demandé à être reçu par le pape François lors de sa prochaine venue en Italie pour le sommet du G7. Une omission qui, si elle se confirmait, trancherait sur les habitudes présidentielles américaines. Donald Trump sera en Sicile les 26 et 27 mai pour participer au sommet des sept pays les plus industrialisés de la planète dans le cadre du G7 dont l'Italie assure la présidence. Lorsqu'ils sont en Italie, les présidents des États-Unis effectuent traditionnellement une escale au Vatican pour un entretien avec le souverain pontife. Le Vatican n'avait pas caché son inquiétude ces derniers mois face à la nouvelle politique américaine en matière d'immigration, dont il était justement question un petit peu plus tôt. Il y a un an, lors d'un déplacement au Mexique, et alors que Donald Trump était en campagne présidentielle, le pape François avait déclaré que la volonté de construire des murs manifestée par le président américain, le candidat à la présidence américaine, cette volonté de construire des murs, donc, n'était pas chrétienne. C'est ce qu'avait déclaré le pape François en visite au Mexique. Donc, pas de rencontre entre François et Donald Trump lors du sommet du G7, en marge du sommet du G7. On poursuit dans cette revue de presse internationale, cette fois dans les colonnes du journal hebdomadaire L'Express. Plus les riches sont riches, moins la croissance est forte, et c'est le FMI qui le dit. Voilà le titre d'un article étonnant qui paraît dans le journal hebdomadaire L'Express. Une étude d'un groupe d'experts du FMI, le Fonds monétaire international, fait couler beaucoup d'encre. L'institution qui défend une ligne très libérale relève que les inégalités sociales sont un frein à la croissance et augmentent le risque des crises financières. C'est un réquisitoire inhabituel pour le FMI, peut-on lire dans cet article de L'Express. Ce lundi, des experts de l'institution ont publié une étude dans laquelle ils fustigent les inégalités économiques accusées de freiner la croissance économique et d'alimenter les crises financières. Donc, vous trouverez cet article fort éclairant dans L'Express. Plus les riches sont riches, moins la croissance est forte. C'est le FMI qui le dit. Fort intéressant. Il y a plusieurs paragraphes. J'aurais pu poursuivre la lecture de cet article, mais le temps, malheureusement, nous manque. On va passer à une autre nouvelle économique qui paraît du côté du journal La Presse. C'est sous la plume du journaliste Sylvain Larocque et qui nous informe qu'une fusion est peut-être dans les cartes pour les géants de l'industrie ferroviaire Bombardier et Siemens. Bombardier et Siemens envisagent une fusion. Bombardier et le géant allemand Siemens sont en pourparlers pour combiner leurs activités ferroviaires dans le cadre d'une fusion dont la valeur pourrait atteindre plus de 10 milliards d'euros, a révélé l'agence Bloomberg. Bombardier Transport et Siemens Mobility Rail Solutions, qui produisent des trains et de l'équipement de signalisation ferroviaire, seraient regroupés au sein d'une co-entreprise, une entente qui pourrait être annoncée au milieu de l'année 2017, toujours selon Bloomberg, qui s'appuie sur des sources qui ont requis l'anonymat. Donc, on peut parler de rumeurs pour le moment. Et d'ailleurs, Bombardier, je viens de lire cette nouvelle dans le journal Le Devoir, Bombardier a démenti cette information. Donc, c'est un dossier à suivre. On verra si cette rumeur se concrétise. Dans les pages du portail 20minutes.fr, on nous apprend que les États-Unis, le gouvernement américain poursuit Google pour discrimination salariale extrême envers les femmes. Donc, Google qui était accusé par le département du travail américain de se livrer à des discriminations salariales à l'égard de ses employés féminines. Vous trouverez ça un peu partout sur le web, dont il y a aussi dans cet article paraissant dans 20minutes.fr. Et on termine avec cette nouvelle un peu insolite. La compagnie United Airlines fustigée pour l'éviction brutale d'un passager. La compagnie aérienne United Airlines a suscité un tollé lundi sur les réseaux sociaux pour avoir maltraité un de ses passagers qu'elle a violemment traîné hors d'un de ses avions qui était en sur-réservation. Un passager de nationalité chinoise qui avait pris place à bord d'un avion de la compagnie aérienne américaine United Airlines s'est fait expulser de l'appareil manu militari dans la journée de dimanche. Les vidéos diffusées en ligne par d'autres passagers montrent un homme en train de crier alors que des responsables le tirent de son siège violemment et le traînent sur le sol. Alors, gros scandale, peut-être en avez-vous entendu parler, tollé, levé de bouclier sur les médias sociaux. Le dirigeant de la compagnie United Airlines a d'ailleurs prononcé des excuses et cette nouvelle continue de connaître des développements. Alors voilà qui complète le tour d'horizon des nouvelles internationales dans cette édition du débrief pour les 11 et 12 avril. Restez à l'écoute, nous allons passer dans un instant aux nouvelles nationales. Vous écoutez Le Débrief, Alexis Gagnon au micro pour cette édition des 11 et 12 avril. Voici votre revue de presse nationale. On commence avec une nouvelle qui nous arrive d'Ottawa. Le ministre Garneau promet d'agir dans le dossier des surréservations de sièges dans les avions. On en parlait à l'instant dans la revue de presse internationale. L'incident sur le vol de United Airlines, devenu viral sur les médias sociaux, a eu un effet dévastateur sur l'image du transport porteur aérien. C'est dans la presse canadienne sous la plume du journaliste Ross Marowitz. Le gouvernement canadien déposera ce printemps un projet de loi qui devrait encadrer la surréservation de sièges dans les avions, une pratique courante chez certains transporteurs, une pratique qui irrite bien des voyageurs. Plusieurs vidéos mises en ligne depuis dimanche montrent un homme littéralement arraché de son siège et tiré par les bras dans l'allée jusqu'à son expulsion d'un appareil de United Airlines. Le transporteur américain voulait libérer des sièges pour quatre de ses employés sur un vol en partance de Chicago. Un porte-parole du ministre fédéral des Transports, Marc Garneau, a indiqué lundi que des règles concernant la surréservation des sièges d'avion seraient incluses dans la future charte des droits des voyageurs promise par le gouvernement libéral l'automne dernier. Ces règles permettraient d'établir clairement les exigences minimales en matière de dédommagement pour les voyageurs en cas de surréservation ou de bagages perdus, a-t-on indiqué. Le porte-parole du ministre Garneau a cependant refusé de prédire si le projet de loi établira des normes nationales ou s'il haussera simplement le montant des indemnités afin d'atteindre la parité avec ce qui est offert aux États-Unis et en Europe actuellement. On reste à Ottawa, cette fois une nouvelle qui paraît dans le portail Canoë. La ministre des Services publics quitte ses fonctions. La ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, Judy Foote, quitte son poste jusqu'à nouvel ordre pour des raisons personnelles et familiales. Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé son départ du cabinet par voie de communiqué. En tant que parlementaire, notre famille doit toujours être notre priorité, a indiqué le premier ministre, et je salue la décision de la ministre Foote de prendre du temps pour être avec ses proches. Nous attendrons son retour à Ottawa avec impatience, a-t-il ajouté. En l'absence de la ministre Foote, l'actuel ministre des Ressources naturelles, Jim Carr, assumera aussi le rôle de ministre des Services publics et de l'Approvisionnement de façon intérimaire. On se transporte dans les colonnes du journal La Presse sous la plume du journaliste Maxime Bergeron, un article intitulé « Libre-échange interprovincial, projet de loi pour inclure la bière ». L'accord de libre-échange interprovincial signé la semaine dernière à Toronto comporte de nombreuses lacunes et devrait inclure le commerce des boissons alcoolisées, déplore le Parti conservateur qui a déposé un projet de loi en ce sens mardi matin à Ottawa. La liste des biens et services exclus de l'accord est ridicule, a lancé le député conservateur de Foothills, John Barlow, à l'origine du projet de loi C-351. À l'heure actuelle, a-t-il dit, c'est plus facile pour un brasseur canadien de vendre sa bière aux États-Unis que dans une autre province canadienne. Le projet de loi déposé mardi au Parlement vise à permettre aux brasseurs de bière et autres producteurs d'alcool de vendre directement aux consommateurs sans passer par les autorités provinciales comme la Société des alcools du Québec, par exemple. Les conservateurs souhaitent ainsi permettre aux Canadiens de transporter de l'alcool d'une province à l'autre, ce qui est interdit par la loi à l'heure actuelle. Divers secteurs de l'économie comme l'énergie et les produits forestiers sont exclus actuellement de l'accord de libre-échange interprovincial. L'entente doit entrer en vigueur le 1er juillet prochain, à temps pour le 150e anniversaire du Canada. En entrevue avec le journal La Presse la semaine dernière, le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, Navdeep Bains, a fait valoir que cet accord représente finalement un véritable marché commun pour le Canada. On va rester dans les colonnes du journal La Presse. C'est la saison des impôts actuellement, vous le savez, et la presse nous indique que les contribuables canadiens ne semblent pas pressés de transmettre leur déclaration fédérale de revenus. À ce jour, seulement 11 millions de déclarations ont été reçues par l'Agence du revenu du Canada sur un total prévu de 29 millions de déclarations. C'est donc 38% des contribuables qui ont fait parvenir leur déclaration d'impôts. Selon la porte-parole de l'Agence du revenu du Canada, Julie Pronovost, il ne faut pas s'en étonner toutefois, puisque cette situation se répète depuis quelques années, les Canadiens ayant maintenant tendance à attendre à la dernière minute. Cette année, les contribuables ont jusqu'au 1er mai à minuit pour faire parvenir leur déclaration d'impôt. Des pénalités sont prévues pour les retardataires. L'Agence du revenu du Canada souligne que 89% des contribuables transmettront cette année leur déclaration par voie électronique. C'est 5% de plus que l'an dernier. Ceux-ci obtiendront un remboursement plus rapide si c'est le cas. Nouveau billet de 10 $, nous rapporte la presse canadienne. La Banque du Canada a dévoilé son nouveau billet commémoratif de 10 $, soulignant le 150e anniversaire de la Fédération canadienne. Et pour la deuxième fois de l'histoire du Canada, on y retrouvera une femme qui n'est pas la reine Élisabeth II. Il s'agira également de la quatrième fois seulement qu'un billet de banque commémoratif spécial sera produit au Canada. Le billet de polymère principalement violet vise à captiver notre imaginaire et à susciter un sentiment de fierté pour ce que nous avons accompli en tant que nation, a déclaré le gouverneur de la banque, Stephen Poloz, révélant également que la conception du billet s'était amorcée il y a 3 ans. On passe maintenant du côté de la presse, du journal La Presse, dans lequel on trouve un article sur le système de paix Phoenix qui devait attribué la paye des fonctionnaires fédéraux. Donc, c'est un fiasco dont vous avez sans doute entendu parler. Le titre de l'article, signé par Maxime Bergeron, « Système de paye Phoenix, des bonis qui soulèvent l'indignation ». Scandaleux, dégoûtant, abusif, le versement de primes de 4,8 millions de dollars à 340 cadres de services publics et approvisionnement Canada l'an dernier, dont plusieurs étaient impliqués dans la débâcle du système de paye Phoenix, a soulevé une vague d'indignation à Ottawa. La mise en place de ce système Phoenix en février 2016 s'est révélée un fiasco qui a entraîné des problèmes de paye pour des dizaines de milliers de fonctionnaires fédéraux. Cette situation n'a pas empêché le ministère d'octroyer de généreuses primes de rendement à ses cadres, des révélations qui ont fait bondir autant les syndicats que les partis d'opposition cette semaine. C'est ce que nous rapporte Maxime Bergeron dans la presse. Les ratés du système Phoenix sont loin d'être réglés, a avoué la sous-ministre responsable Marie Lemay, même si des progrès auraient été observés. Quelques 50 millions ont été engloutis dans ce dossier et le ministère ignore combien devront encore être dépensés. Alors voilà les dernières nouvelles à propos du système de paye Phoenix, un fiasco du côté d'Ottawa qui a causé beaucoup d'ennuis aux fonctionnaires fédéraux. La transparence, des fois, quand ça arrange, voilà le titre d'un éditorial et on va refermer cette revue de presse des Nouvelles Nationales avec ce texte donc de Paul Journet qui paraît dans la presse. C'est un texte de Paul Journet qui concerne la loi sur l'accès à l'information. Paul Journet se penche sur ces lois qui sont bien souvent insuffisantes pour procurer toute la transparence à laquelle ont droit les citoyens. Ces lois sont pleines de trous, écrit Paul Journet. Elles s'appliquent à un trop petit nombre d'organismes publics et elles prévoient plein de boucliers pour ceux à qui elle est censée s'appliquer. Le secret commercial n'est qu'un problème parmi plusieurs autres. Par exemple, au fédéral, les cabinets de ministres n'y sont pas assujettis à cette loi sur l'accès à l'information. Et si un organisme esquive une demande d'accès, il n'est pas trop embêté car la commissaire à l'accès ne peut lui ordonner de diffuser de l'information. Au fédéral, les membres du Parti libéral pourraient procéder, s'il le voulait, en deux étapes, comme il le prévoyait initialement. D'abord, en remplaçant les inutiles clauses d'exception par une clause qui évaluerait les demandes en fonction de l'intérêt public. Puis ensuite, il pourrait, en déposant une réforme globale qui serait basée sur 95 recommandations qui avaient été remises à la commissaire, aller de l'avant. Mais le ministre responsable de la réforme, Scott Bryson, a annoncé à la veille du dernier budget qu'il ne se donnait plus d'échéancier. Donc, cela veut dire qu'il a l'intention d'enterrer le projet de réforme de la loi sur l'accès à l'information, conclut Paul Journet dans cet éditorial qui paraît dans le journal La Presse. L'éditorial, je vous le rappelle, est intitulé « La transparence des fois ». Quand ça arrange. Et voilà, on va refermer cette revue de presse nationale. Vous écoutez l'émission Le Débrief pour les 11 et 12 avril. Restez avec nous dans un instant, votre nouvelle francophone du jour. C'est le moment de parler de francophonie dans cette édition de l'émission Le Débrief. Voici donc votre nouvelle francophone pour les 11 et 12 avril. Nous allons dans un quotidien africain qui nous annonce la tenue prochaine des Jeux de la Francophonie qui auront lieu en juillet prochain à Abidjan. Les Jeux de la Francophonie prévus du 21 au 30 juillet 2017 à Abidjan seront une réalité dans 100 jours, se réjouit le quotidien Kouassi.com. Plus que 100 jours avant la tenue des 8e Jeux de la Francophonie. On sait que le Nouveau-Brunswick accueillera ces mêmes jeux en 2021. L'annonce avait été faite l'année dernière. Alors, pour le moment, ce sont les huitièmes jeux. On les attend à Abidjan, Côte d'Ivoire, bien sûr. Et ce quotidien, Kouassi.com, écrit « Ce seront près de 4000 jeunes artistes et sportifs venus de 84 États du monde qui sont attendus dans la capitale économique pour l'événement, selon un document de l'institution dont copie est parvenue à notre média. Les préparatifs sont très avancés. À ce jour, 54 États et gouvernements se sont engagés et le Comité national des 8e Jeux de la francophonie d'Abidjan 2017 est pleinement à pied d'œuvre pour assurer le meilleur accueil aux délégations participantes. Les infrastructures sportives, culturelles et d'hébergement sont sur le point d'être livrées. Tout comme la secrétaire générale de la francophonie lors de sa visite officielle à Abidjan, et là on parle bien sûr de Michael Jean, les représentants de délégations ont tous pu apprécier l'état d'avancement des préparatifs et notamment la construction du village Akwaba qui accueillera les 4000 jeunes talents. C'est ce qu'a indiqué une responsable des communications chez les organisateurs de cette 8e édition des Jeux de la francophonie. Donc cette 8e édition, écrit le portail Kouassi.com, bénéficiera d'une couverture médiatique sans précédent. Les 5 continents seront couverts avec plus de 500 millions de téléspectateurs, 700 journalistes, dont 300 journalistes internationaux. Tout ce beau monde est attendu et on prévoit 60 heures de programme TV avec des images en haute définition qui seront diffusées gratuitement auprès des chaînes télévisées de l'espace francophone. Pour les concours culturels et de création, poursuit cet article, les participants évolueront dans des disciplines suivantes: hip-hop, marionnette géante, jonglerie avec ballon, peinture, sculpture, installation, chanson, contes et conteurs, danse de création, littérature, photographie, création pour le développement durable et création numérique. Donc un foisonnement d'activités culturelles en parallèle aux disciplines sportives, peut-on apprendre dans cet article. En ce qui concerne les compétitions sportives, football, basketball, tennis de table et cyclisme sur route, la lutte libre, lutte africaine, judo, athlétisme et handisport sont parmi les disciplines qui seront en vedette. Donc cet article paraît dans le portail Kouassi.com. C'est un portail de Côte d'Ivoire, ivoirien, et cet article se réjouit de la tenue prochaine des 8e Jeux de la francophonie. Donc au mois de juillet prochain, on y reviendra dans le débrief, c'est certain. Alors ainsi se clôt ce bloc international, national et francophonie. C'est Alexis Gagnon au micro. Merci de demeurer à l'écoute de votre radio communautaire francophone locale.
Je dis pas si encore dans ma vie histoire. Ça je t'ai promis quand je réservais un soir. Y'a beaucoup de route à faire. C'est pas comme l'année dernière. Je t'ai dit que mon cœur resterait avec le tien. Thank you.
Alors, vous écoutez le débrief à l'antenne de CILS FM 107,9 dans la grande région de Victoria. C'était Fil de téléphone, une pièce de la formation néo-brunswickoise les Hey Babies, oui. Alors, il est 16h30. On va regarder la météo pour la région. Actuellement, Environnement Canada nous affiche 12 degrés à l'aéroport de Victoria. Pour la soirée, le mercure descendra à 5, probabilité d'averse de 30%, donc une probabilité de pluie intermittente évaluée à 30% pour la soirée. Demain, mercredi 12 avril, un maximum de 11 degrés. De la pluie intermittente également est prévue par Environnement Canada. C'est ce qu'on peut lire sur le portail d'information météo.gc.ca. Ensuite, jeudi 13 avril, 10 degrés. Encore de fortes probabilités d'averses pour jeudi 13 avril, probabilités qui sont évaluées à 70%. Et ça se poursuit également vendredi 14 avril. Le début du congé pascal sera donc pluvieux si l'on en croit météo.gc.ca. 11 degrés au maximum avec des probabilités d'averses qui se situent autour de 70%. Et le soleil pourrait revenir le samedi 15 avril, c'est ce que nous annonce le portail d'Environnement Canada, mais c'est encore bien loin, ça pourrait changer. Alors, pour le moment, comme je le disais, on a 12 degrés à l'aéroport. On retourne en musique. On écoute l'artiste Claude Pelgag, une pièce qui s'intitule « Samedi soir à la violence » et on se retrouve de l'autre côté avec les nouvelles provinciales. À tout de suite.
J'entends souvent cette voix, celle qui habite toi. Je les entends toujours, tu vois, tes éclats de rire figés par le froid. Il me blesse maintenant que tu ne te souviens plus comment.
Bonsoir, nous étions là. S'il te plaît.
C'était Claude Pelgag dans l'émission Le Débrief à 16h36. Merci d'être à l'écoute. C'était Thierry de l'album L'Étoile Thoracique, la pièce intitulée Samedi soir en la violence. On va passer à la revue de presse des infos provinciales dans quelques instants à l'antenne de CILS. Alors, première nouvelle qui nous arrive du portail britanno-colombien de Radio-Canada. Hausse de 30% des sans-abri dans la région de Vancouver. Le nombre de sans-abri a augmenté de 30% en 2017 par rapport à 2014, selon un rapport de l'association BC Nonprofit Housing publié en début de semaine. Ce nombre est passé à 3605 personnes, soit 828 de plus qu'il y a 3 ans en 2014. Vancouver et Surrey enregistrent le plus grand nombre de sans-abri d'après des données récoltées par des bénévoles de cette association. En date du 8 mars, au moment du décompte, 2050 des sans-abri habitaient un logis passager, tel un refuge, une maison d'hébergement pour les jeunes ou une maison de transition pour les femmes. Il y avait aussi 256 personnes dans un abri d'urgence en cas de température extrême. Les autres personnes recensées dans ce sondage étaient à la rue. L'augmentation extraordinaire de toutes les catégories des sans-abri nous indique que le problème est en hausse malgré tous les efforts qui ont été déployés pour mettre un frein à ce problème, a déclaré le directeur du comité sur le logement du Grand Vancouver, Mike Clay. Le nombre de personnes s'identifiant comme autochtones était de 34%, soit la plus grande proportion jamais enregistrée dans le cadre de ce recensement. Alors, je vous rappelle le titre de cet article paru sur le portail de Radio-Canada Colombie-Britannique, hausse de 30% des sans-abri dans le Grand Vancouver. On reste sur le portail britanno-colombien de Radio-Canada pour cette nouvelle qui signale les derniers développements de la campagne électorale provinciale. Christy Clark, vilipendée par la sœur de l'étudiant mort après les congédiements en santé de 2012. La sœur de Roderick McIsaac, l'étudiant mort après les congédiements au ministère de la Santé de la Colombie-Britannique en 2012, a publié une lettre qui vilipende la première ministre Christy Clark et sa réponse au rapport de l'Ombudsman. La première ministre Christy Clark démontre la même attitude insensible et cynique envers ma famille depuis 4 ans et maintenant, et sa réponse au rapport de l'Ombudsman n'a pas changé, a écrit Linda K. Fish, qui est la sœur de Roderick McIsaac. Roderick McIsaac a été l'un des 8 employés congédiés à l'époque en raison de présumées violations de données personnelles. La ministre de la Santé de l'époque avait laissé entendre que les chercheurs avaient eu des conduites possiblement criminelles en suggérant que la Gendarmerie royale du Canada, la GRC, enquêtait sur eux alors que ce n'était pas le cas. Roderick McIsaac s'était enlevé la vie en décembre 2012. Dans cet article de Radio-Canada, on rappelle que la semaine dernière, l'Ombudsman de la province de Colombie-Britannique, Jay Chalk, a publié un rapport cinglant sur toute cette affaire. Il a qualifié les actions du gouvernement de Christy Clark de trompeuses, erronées et inutilement précipitées. Christy Clark a refusé de commenter ce rapport et la sœur du défunt étudiant, Linda K. Fish, y voit un refus d'assumer ses responsabilités. « C'est d'une mauvaise foi grossière », a-t-elle déclaré, si l'on considère que la propre ministre de Mme Clark, la ministre de la Santé de cette époque, s'est présentée devant les caméras en 2012 pour annoncer au monde que mon frère et ses collègues étaient peut-être des criminels. Donc, vous trouverez cette nouvelle dans le portail de Radio-Canada. Christy Clark, vilipendée par la sœur de l'étudiant mort après les congédiements en santé de 2012. Et si on se transporte maintenant dans le portail local Victoria News, que l'on trouve à l'adresse internet vicnews.com, construction to begin on $3 million plaza at corner of Belleville and Menzies Street. Donc, une place publique est en construction. près du terminal de ferry, le terminal des traversiers, près de la législature britanno-colombienne. Donc, vous voyez où c'est, en plein cœur de Victoria, une nouvelle place publique qui se veut conviviale, bien sûr, et qui pourra attirer les piétons, les cyclistes, leur permettre de s'asseoir et de profiter de la beauté des environs. C'est une place qui va entrer en construction prochainement et le projet a reçu de nombreux appuis. Une conseillère municipale qui est interviewée dans cet article de Kendra Wang dans le portail Victoria News indique qu'elle n'a pas encore entendu d'objection à ce projet de place publique près du terminal des traversiers. Alors, on prévoit que cette place publique, cette nouvelle place publique, sera prête en avril 2018, donc dans un an exactement. On se transporte dans les pages du portail CBC, le portail de la radio et de la télévision anglaise de Radio-Canada. CBC nous apprend que l'hôpital de Terrace, donc Terrace c'est une ville qui est très au nord de la province, à plusieurs heures de route de Vancouver. Donc l'hôpital de Terrace a commis de nombreuses erreurs médicales et ces erreurs ont été commises par un radiologiste en particulier. 700 patients ont reçu des radiographies et des scans erronés, donc des interprétations radiographie et de scans qui étaient erronées. C'est maintenant confirmé par les autorités sanitaires régionales dans la région de Terrace. Donc, ces autorités régionales sanitaires qui s'appellent Northern Health, un peu comme on a ici Island Health. C'est confirmé. Il y a eu 700 erreurs de lecture, de scan et de radiographie, de rayon X si vous préférez, et CBC revient sur le sujet. L'article mentionne que le radiologiste fautif est en congé actuellement. Il s'est retiré de ses fonctions volontairement le sujet continue de susciter la colère des résidents de Terrace. Donc vous aurez tous les détails dans cet article paraissant dans le portail de la CBC. On poursuit notre tour d'horizon des nouvelles provinciales et locales. On nous apprend dans Victoria News, retour dans les colonnes de Victoria News, on nous apprend que les employés de stations-service et de dépanneurs, ou si vous voulez, de magasins convenience store vont faire un sit-in samedi soir pour demander le retour de règles qui forcent les propriétaires de dépanneurs et de stations-service à employer plus d'une personne en soirée. Donc, ce sont des règles de sécurité qui avaient été abolies par le gouvernement en 2012, mais les employés ont fait front commun et un sit-in est organisé ici à Victoria. Ce sera devant le dépanneur Mac au centre-ville sur Douglas Street vers 8h p.m. et ça aura lieu également sur Commercial Drive dans le centre-ville de Vancouver. Donc cet article paraît dans Victoria News à propos des employés de dépanneurs et de stations-service qui souhaitent que le gouvernement de la Colombie-Britannique rétablisse les règles de sécurité et notamment celles qui obligent les propriétaires à employer plus d'une personne en soirée, puisque des incidents se sont produits et de la violence a été commise. Ces employés sont inquiets. Alors, on poursuit cette revue de presse provinciale et locale, toujours dans les pages de Victoria News. On va mentionner qu'un feu s'est déclaré dans une embarcation dans la gorge, donc tout près de la passerelle qui relie Vic West à Rock Bay. Le feu s'est déclaré dans une embarcation. C'est plutôt un bateau hors-bord d'assez grande taille. Les photos sont d'ailleurs d'ailleurs assez impressionnante. Vous pourrez trouver ça dans Local News et notamment sur le site de Souk Mirror. Donc, le feu qui s'est déclaré dans une embarcation ici à Victoria, dans la gorge, tout près de ce qu'on appelle la trestle ou la passerelle qui relie Vic-West à Rock Bay. Autrement, toujours dans le Souk News Mirror, on apprend que l'université Royal Roads est toujours en partenariat avec la ville de Souk. Le partenariat prévoit que des étudiants à la maîtrise en tourisme et en commerce se livreront à des recherches de façon à optimiser le développement économique de Souk. Donc, c'est une entente qui pourra rejaillir favorablement sur le développement économique de Souk. Le titre de l'article, Royal Roads Master Students to Research Souk Tourism. Alors, c'est un programme qui a maintenant 3 ans et qui a été renouvelé. Les parties sont satisfaites. C'est une entente gagnant-gagnant, si vous voulez, entre l'université Royal Roads et la ville de Souk. Donc, des étudiants à la maîtrise qui se penchent sur les données de développement économique dans la région. Je vais vous inviter à retourner en musique. On va faire une petite pause musicale. Il est 16h47 actuellement. Vous écoutez l'émission Le Débrief à l'antenne de CILS FM 107,9. Merci d'être à l'écoute. C'est Alexis Gagnon au micro. On va écouter l'artiste Sophie Pelletier à présent, une pièce qui s'intitule « À l'envers ». On se retrouve pour le mot de la fin dans quelques minutes. À tout de suite.
De déception et de tristesse, près de ma porte où sont entrés les beaux parleurs, les grandes promesses, la gorge nouée, le cœur épuisé. Je commence à penser que je dois vivre en solitaire. Après des foules de kilomètres de liberté en liberté, je me retrouve en tête à tête avec ma réalité. Personne à qui parler pour partager mes journées. Je me dis quelle misère.
savoir bien le faire la première fois. On recommence à chaque fois quand on fait deux choses à la fois. Une chose à la fois. Faut faire une chose à la fois, bien le faire la première fois. On recommence à chaque fois quand on fait deux choses à la fois. Une chose à la fois. C'est fou comme y'a rien qui marche quand on court après le temps. Quand on court après le temps, y'a rien qui marche. Disait mon père, tant pas faire en si peu de temps. Une chose à la fois. Il faut pas péter sa coche, surtout pas péter sa coche contre le temps qui change. Et pas comme pillant les pensées, mais si bon un peu d'avance que de tester sa patience. Pendant quatre, m'a dit l'arbre ambitieux qui a fini par s'abattre. Le temps est un libertin qui pousse en liberté. Je me répète en vain que je devrais m'en douter et faire une chose à la fois, bien le faire la première fois. On recommence à chaque fois quand on fait une chose à la fois. Une chose à la fois, bien le faire.
Père francophone est accessible 24 heures par jour au 107.9 CILS FM.
CILS FM 107.9, votre voix. Pour être francophone et francophile en Colombie-Britannique.
Allô la planète, avec Eric Lange.
Hop, 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 allons-y, le monde entier nous attend, l'univers connu nous attend, le cosmos est avec nous, où que vous soyez donc.